Dominique Monette, l'importance du ressenti sensoriel en EFT.
Ça a été très très intéressant comme démarche pour moi de venir donner cette conférence, parce que j'avais donné mon titre à Cathy, puis elle me dit non, pas tout à fait. Donc je l'ai un peu adapté et je suis partie dans quelque chose qui m'a passionnée. Donc je vais d'abord vous envoyer dans quelque chose d'assez théorique. Sachez que le petit feuillet que je vous distribue là pour l'instant, vous avez tout. Donc vous pouvez vraiment lâcher, vous pourrez tout recontacter après. Ça va ? Donc ma passion à moi, c'est le ressenti. Quand je fais, quelle que soit la technique que j'utilise, je suis toujours dans le corps. Et je me suis dit, en EFT, trop souvent, on se limite là. Est-ce qu'on ne peut pas aller dans le corps ? Et donc je vais déjà vous donner la conclusion de la conférence, et puis je vais la développer pendant tout le temps. Et la conclusion de la conférence, c'est de dire, si je veux vraiment faire un travail approfondi en EFT et aller vraiment à l'origine de tout ce qui est la cause de notre difficulté dans le présent, c'est par le ressenti que j'y arriverai. Alors on développe ça. Ça va ? Vous n'avez pas le PowerPoint, mais il est vraiment basé sur le travail que je vous ai donné. Alors, la chose, c'est que tout notre vécu se met dans notre mémoire. Et c'est comme ça que ça marche ? Non, je ne sais pas ce que je dois faire. Je dois faire ça. Voilà. Et on a plusieurs types de mémoire. On a une mémoire à très court terme. La mémoire à très court terme, l'image visuelle que j'ai, ou l'image auditive, hein, le son que j'ai, et qui reste vraiment que quelques microsecondes. Et puis, on a la mémoire à court terme, qui est aussi, entre autres, je ne vais pas développer ce qu'on appelle la mémoire de travail. Quand vous amenez quelque chose sur l'écran de votre ordinateur pour le travailler, mais ça reste le temps que vous le travaillez, puis c'est parti. C'est la même chose avec le cerveau. Et puis, la mémoire qui va nous intéresser, nous, c'est cette mémoire à long terme. La mémoire, c'est quelque chose d'assez complexe, et tous les auteurs ne sont pas d'accord, mais ici, on va un peu développer cette mémoire à long terme. Alors, il y a deux types de mémoire à long terme. Il y a la mémoire dont je peux parler. C'est la mémoire qu'on appelle explicite ou déclarative. Et dans la mémoire explicite ou déclarative, il y a la mémoire de mes événements spécifiques, ce que j'ai vécu dans la vie, mon histoire de vie. Ça, je m'en souviens, je peux en parler. Et on verra après, ça se loge dans le lobe temporal interne, je vous présente ça après. Et puis, il y a la mémoire des dates, la mémoire ce qu'on utilise à l'école pour retenir les dates historiques, pour retenir les mots de vocabulaire, les tables de multiplication qu'on appelle la mémoire sémantique. Et puis, il y a une toute autre sorte de mémoire qui est la mémoire dont on ne peut pas parler. C'est la mémoire implicite. C'est la mémoire non déclarative. Et cette mémoire-là, elle est inconsciente et elle s'exprime autrement que par les mots. On vient d'entendre Marie-Odile parler du fait que parfois, il y a des secrets qui sont là, qui s'expriment, mais on ne sait pas. C'est la mémoire implicite. Alors, dans la mémoire implicite, il y a la mémoire procédurale. C'est j'apprends à rouler à vélo. Au début, je dois être là tout à fait conscient de ce que je fais quand je roule à vélo. Et puis après, je le fais naturellement, automatiquement. C'est la mémoire des gestes, etc. Et puis, on voit qu'on a tous les conditionnements émotionnels dans cette mémoire implicite. Donc, on va voir qu'il y a deux types de mémoire que nous allons utiliser ici, principalement dans notre travail en EFT. Mais c'est la mémoire des épisodes de notre vie, dont je suis conscient. Et c'est la mémoire des conditionnements émotionnels qui est totalement non consciente, qui est non déclarative. OK. Alors, avant d'aller un peu plus loin, je vous présente un peu quelqu'un que j'aime beaucoup, le cerveau humain. Voilà, c'est un cerveau vu profil gauche. Et le lobe qui nous intéresse, c'est le lobe temporal qui se trouve situé ici. Alors, vous voyez ici un... Tant pis, je mets tout dans le tas. Vous voyez ici un cerveau toujours profil gauche, oui, façon de parler, profil droit plutôt. Vous voyez, ce que vous voyez devant vous, c'est le profil gauche, avec le lobe temporal. Et puis, vous savez que le cerveau peut se couper en deux, d'accord ? Il y a deux hémisphères, Et vous voyez derrière le deuxième hémisphère, qui est l'hémisphère droit, avec en rouge qui revient, cette petite queue qui revient, qui est notre lobe temporal. C'est là que tout va se passer. C'est là qu'on va retrouver la mémoire explicite et la mémoire implicite au niveau émotionnel. Je voudrais juste attirer votre attention sur une petite zone qui va nous intéresser aussi. Vous voyez hypothalamus, ça va ? Et puis vous avez un truc qui descend là, qui est le tronc cérébral. Il est marqué protubérance, c'est une partie du tronc cérébral. Toute cette zone-là va nous intéresser. Là-dedans, dans cette partie-là, j'avais oublié ça, on peut diviser aussi, pour simplifier les choses, le cerveau en 3 plus une partie. On y reviendra tout à l'heure. On a ce fameux tronc cérébral. Vous verrez tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle le cerveau reptilien. Puis on a le système limbique qui est le cerveau émotionnel. Et puis au-dessus, on a le néocortex qui est le cerveau, le nouveau cerveau. On y reviendra. Derrière, on a le cervelet. Ce qui va surtout nous intéresser, c'est le système limbique et un peu le tronc cérébral au niveau de nos émotions. Voilà le cerveau émotionnel, principalement le système limbique. Et vous voyez, toutes ces zones-là sont les zones qui vont être impliquées. Si vous vous souvenez tout à l'heure, je vous avais dit que la mémoire explicite des faits de notre vie se trouvait au niveau de l'amygdale et de l'hippocampe. Vous les voyez là. Et que les conditionnements émotionnels, c'était au niveau de l'amygdale. Donc, vous voyez où ça se situe. En fait, ça se situe ici au niveau de notre lobe temporal. Ça suffit pour mon ami le cerveau. On va maintenant passer à la mémoire émotionnelle. Alors, la mémoire émotionnelle, ben, il y en a de deux sortes. Il y a comment je crée un souvenir émotionnel et comment je récupère un souvenir émotionnel. Et je vis un événement qui a une connotation émotionnelle. Ça rentre, les informations rentrent par diverses voies sensorielles. Ça peut être par mes yeux, ça peut être par mes oreilles, et on y reviendra aussi plus loin, ça peut être par les autres sens. Et je vais avoir les deux systèmes de mémoire qui vont entrer en jeu. Je vais avoir le système de la mémoire explicite, qui est le souvenir à propos, qui va créer le souvenir à propos de cet événement émotionnel. Et je vais avoir le système de mémoire implicite qui va engranger l'aspect émotionnel de l'histoire. C'est-à-dire que ça, c'est totalement non conscient. Et puis quand je revis un autre événement émotionnel qui me rappelle, qui est un signal, qui me rappelle quelque chose que j'ai déjà inscrit, eh bien de nouveau, ça va rentrer, je vais entendre un son, une chanson, ou je vais repasser par un endroit où je suis déjà passé et où. Et ça va automatiquement réveiller le souvenir conscient, mais vous savez très bien aussi que ça va réveiller toute l'expression. Si je suis passée à un endroit où j'ai vécu une rupture amoureuse et je repasse à cet endroit-là, eh bien automatiquement, ce qui va se passer, je vais me souvenir de l'événement, mais mon corps va aussi l'exprimer par des tremblements, des transpirations, un nœud dans la gorge, etc., etc. Ça va ? Donc l'expression émotionnel, c'est notre système de mémoire implicite. Ça va, vous suivez ? Parce que je suis toujours à foncer, 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 donc vous devez me ralentir s'il le faut. Alors, juste pour vous dire, ici, le souvenir de l'émotion, c'est dans le lobe temporal au niveau de l'hippocampe, et l'expression de l'émotion, c'est plus le souvenir émotionnel et l'expression de l'émotion, c'est plus au niveau de l'amygdale. Mais son des détails. Alors, avant de continuer, je voudrais vous parler d'un monsieur qui s'appelle Joseph Ledoux. Et Joseph Ledoux, il a décrit ce qu'on appelle les deux circuits ou le circuit de la peur. Le circuit de la peur, c'est un circuit qui fonctionne dans notre cerveau, qui va agir chaque fois qu'il y a une menace, quelque chose qui met notre survie en danger. Alors, quand j'ai un stimulus sensoriel, que ce soit auditif, visuel, kinesthésique, etc., les informations arrivent dans le thalamus. Vous voulez que je vous montre où c'est ou c'est bon comme ça, vous n'avez pas besoin. J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, de le regarder. Et du thalamus, ça va passer directement vers l'amygdale. Cette amygdale qui est cet organe du cerveau qui, d'une certaine manière, dès qu'il y a une information qui arrive, va se demander est-ce que cette information est une menace, est en danger ou pas. Et immédiatement, si c'est perçu, ne fût-ce que dans le brouillard, comme étant une menace, on va avoir une réponse physiologique. Il y a une deuxième voie, beaucoup plus longue, qui passe par le cortex, et le cortex va interpréter les choses et dire, tiens, est-ce que c'est vraiment une menace ? Ou bien, c'est pas dangereux. Et le cortex va alors, via un retour à l'amygdale, nous dire, cool, c'est pas dangereux. Un exemple pris par le doux, c'est l'exemple de je me balade en forêt et tout d'un coup j'ai appuyé sur quelque chose, je me fiche sur place avant même d'avoir réagi parce qu'il y a quelque chose qui a bougé là sur ma droite. Et je suis déjà en état de survie. OK ? Et ce n'est que quand j'ai le temps de voir ah, c'est pas un serpent, c'est juste un bâton qui a bougé. Quand mon cortex a vu la chose, il peut se rassurer. Et vous, je suis sûre que vous avez déjà vécu cette expérience où vous vous baladez n'importe où, en rue, en ville, et tout d'un coup, il y a un chien qui aboie. Et vous êtes là déjà en train de transpirer, de paniquer, et ce n'est qu'après que ça va se calmer parce que vous voyez que vous avez une palissade entre le chien et vous. C'est exactement ce qui se passe. Vous voyez que là, c'est par les yeux, sinon c'est par les oreilles pour le chien. Ça arrive au thalamus auditif dans ce cas-là. Et puis, ça va directement vers l'amygdale qui me fait immédiatement réagir, prête à courir, prête à me battre. Et puis, ça ne prend qu'un temps long pour aller dans le cas du chien, vers le cortex auditif et venir freiner l'acte de l'amygdale. Ça va ? Donc, on a ce circuit rapide qui nous fait réagir immédiatement sans conscience. Et puis, on a le circuit lent qui nous dit « cool, il y a une palissade » ou « cool, c'est juste un bois, un morceau de bois. C'est pas dangereux. » Mais l'amygdale nous fait réagir avant quoi que ce soit. Il n'y a aucune conscience à ce niveau-là. C'est ce que le doux appelle la voie courte et la voie longue. Alors, résumé de cela, on peut dire que l'amygdale a un rôle de survie, elle va nous faire réagir avant même que le conscient ne soit présent, et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il vaut mieux prendre un bâton pour un serpent que l'inverse, surtout si le serpent est venimeux. Ok ? Bien. Donc, on a deux types de mémoire émotionnelle résumée. On a le système de l'amygdale, qui est cette mémoire implicite de l'émotion totalement non consciente qui réagit au quart de tour. Et puis, on a le système de l'hippocampe, qui est la mémoire, le souvenir de l'événement, de la situation émotionnelle. Et dans les techniques que j'utilise et que j'enseigne, il y a la technique TIPI créée par Luc Nicon. Et Luc Nicon nous dit ceci. Hop, c'est de travers pour vous. Ça me paraît de travers ici. Pour vous, c'est bon. Il nous dit en fait, nos deux mémoires œuvrent de concert, en complémentarité. Il y a la mémoire consciente qui nous fournit ces éléments attachés à une situation que je peux analyser intellectuellement. Vous avez tout ça dans les notes. Hein. Et puis, j'ai la mémoire inconsciente qui nous propose un ressenti physique et émotionnel en lien avec cette situation. Et il continue, je ne l'ai pas mis sur... il dit, lorsque nos deux systèmes de mémoire sont en phase, tout va bien. Nous vivons les situations dans une sorte de plénitude sans nous poser de questions. Mais lorsqu'ils sont en opposition, nous sommes en état de mal-être et notre attitude s'en trouve altérée. ça peut entraîner de l'agressivité, de la fuite, etc., etc. Et comme nous le dit un autre grand Bruce Lipton, c'est le subconscient qui mène, on pourrait dire, notre vie, nos actions, nos réactions, et pas le conscient. Avant que je ne continue, des questions sur la mémoire. Ça va, vous avez pigé, même si c'est un peu complexe. D'accord, ça va. C'est vrai qu'on a été éveillé ce matin à 6h15, je pense. Par une alarme, là, malgré les boules QS, on l'entendait dans tout l'hôtel Ibis. Voilà, c'est exactement ça, oui. On s'éveille, on se demande ce qui se passe, et puis après, ben, le raisonnement vient. Tout à fait. Alors maintenant, je vais vous parler d'une notion dont j'ai déjà un peu parlé tout à l'heure ici. C'est ce qu'on appelle le cerveau triunique. En fait, le cerveau triunique a été développé par un monsieur qui s'appelle Paul MacLean. Et aujourd'hui, c'est un peu controversé, cette idée-là, mais son modèle est encore vraiment utilisé pour comprendre, pour modéliser le fonctionnement du cerveau. Au cours de l'évolution, il y a eu trois types de développement principaux au niveau du cerveau. On a ce qu'on appelle, chez l'humain, le tronc cérébral, qui est le cerveau reptilien. Le cerveau reptilien, il est apparu il y a 400 millions d'années, et c'est vraiment notre cerveau réflexe. C'est la structure cérébrale la plus ancienne et la plus profondément enfouie, celle qui risque le moins les traumatismes, parce que c'est vraiment par là que l'on vit. C'est le battement cardiaque, c'est la respiration, etc., etc. Plus tard, s'est développé un autre cerveau qui s'appelle le cerveau paléo-mammélien, on va l'appeler notre cerveau limbique, qui est le cerveau, un ancien cortex, qui est un cortex moins épais, et ce cortex est noyau, et ce cerveau-là est apparu chez les premiers mammifères. Ce cerveau-là est responsable de nos comportements instinctifs, de nos comportements appris et de notre mémoire. Quand on parle de ça, c'est principalement la mémoire lié à la survie. Qu'est-ce qui est dangereux? Qu'est-ce qui n'est pas dangereux? Qu'est-ce qui demande une réaction immédiate du corps ou pas? Et puis plus tard, chez les bipèdes, est arrivé le troisième cortex, qui est un cortex avec les noyaux sous-jacents, qui est un cortex à 6 couches cellulaires, et qui est beaucoup plus développé. Et ce cortex-là s'appelle le néocortex. C'est dans ce cerveau-là que l'on a, entre autres, le cerveau de la logique, avec chez l'humain la partie tout à fait antérieure de ce néocortex, qui n'existe pas chez les grands singes. Chez l'humain, on a ce qu'on appelle ce cerveau préfrontal, qui nous permet de planifier, de raisonner avec la mémoire de travail dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà. Alors, si on regarde un petit peu le cerveau reptilien, si on veut approfondir ce cerveau-là, on peut dire que c'est vraiment le cerveau de notre survie physiologique. C'est lui qui va nous permettre de répondre aux besoins fondamentaux. Quand on est en déséquilibre, c'est lui qui va chercher, faire ce qu'il faut pour nous ramener en équilibre, en homéostasie. L'outil d'alerte du cerveau reptilien, ce sont nos sensations. Vous sentez que j'arrive déjà à ma conclusion, hein, mais bon, on n'y est pas encore. Tous les comportements stéréotypés, tous les comportements préprogrammés, c'est au niveau de ce cerveau-là qu'il se trouve. Le souci, c'est que le cerveau reptilien n'a qu'une mémoire à très, très court terme. Donc, il ne retient pas les souvenirs, les choses du passé. Il vit la chose, il l'oublie. Il réagit de manière réflexe et c'est oublié. Donc, on ne peut pas changer les choses. Et donc, dès que on est dans une situation de stress ou de survie, clac, il agit. Comment? Vous vous souvenez que je vous ai dit, les sensations sont son outil d'alerte. On continue. Chez l'homme, ce cerveau reptilien est principalement responsable de nos comportements primordiaux. Et on va voir un peu plus loin différentes théories sur que je trouve passionnantes sur le rôle des émotions et les comportements qu'elles entraînent. Ici, je vous ai remis la même chose que tout à l'heure, le même schéma, simplement en rajoutant là sur la droite les différents cerveaux, le cerveau reptilien qui est le cerveau réflexe, le cerveau limbique qui est un cerveau de réaction et le néocortex qui est un cerveau de réflexion, de raisonnement, les trois R. Encore un petit schéma sur le cerveau trionique un peu plus développé. Donc vous voyez vraiment le reptilien, c'est la survie, ce sont les grandes fonctions, respiration, cardiaque, etc., la fuite, le plaisir, la peur. Le limbique, c'est plus lié aux émotions, aux apprentissages, à la mémoire, et le cortex plus à l'intelligence, la logique, etc. Au niveau émotionnel, le cortex nous permet de mettre des mots sur ce que nous ressentons, d'analyser ce qui se passe. Donc on sent que c'est une gestion émotionnelle très mentale. On pourrait dire que c'est psycho-émotionnel. Au niveau limbique, notre cerveau émotionnel, où on a principalement l'amygdale, mémoire implicite, en gros, hein, et hippocampe, mémoire explicite, c'est là que nous stockons nos souvenirs émotionnels et les comportements en conséquence de cela. Et puis on a le tronc cérébral qui est vraiment, au niveau émotionnel, non plus les émotions elles-mêmes, brutes, mais les réactions physiologiques, corporelles, face à nos émotions. Alors, j'ai parlé beaucoup d'émotions, et là j'ai vraiment envie de vous dire, mais à quoi ça sert les émotions? Que sont les émotions? À quoi ça sert les émotions? Alors, si on regarde le mot « émotion », mais c'est, on pourrait dire, c'est « mettre en mouvement ». Il y a le mot « motion ». Les émotions sont là pour me mettre en mouvement, pour, si je regarde les émotions fondamentales dont on va parler tout de suite, pour retrouver un équilibre perdu. Donc ça, c'est vraiment le but primordial de mes émotions. Bien sûr, on a le second sens que l'on adapte à l'humain, qui est les émotions, c'est aussi motion, c'est aussi me toucher émotionnellement, toucher ma sensibilité, m'ébranler, me remuer. Et si on regarde de nouveau ce que dit le doux, et c'est là que je veux vraiment arriver, c'est que les émotions, comme je vous le disais, c'est vraiment un outil de survie. Et le doux nous dit, les émotions sont des fonctions biologiques de notre système nerveux. Et je vais maintenant vous introduire deux théories parmi d'autres sur les émotions et le rôle des émotions. Je vais vous parler de Plutchik, que je connais bien, pas personnellement, mais son travail, parce que je l'utilise depuis longtemps, et de Panskep, que je connais un petit peu moins bien, je l'ai déjà utilisé aussi dans mon travail, mais un petit peu moins. Hop. Plutchik nous dit, les émotions ont eu un rôle adaptatif en aidant les organismes à régler les questions clés de survie posées par l'environnement. Alors, là, on va voir des belles choses. Dans vos feuilles, ça me coûtait vraiment trop cher de vous les faire en couleur. Mais je vous ai mis en dessous chaque fois le site internet d'où cela vient, donc vous pourrez vous les retrouver en couleur. Voilà la roue des émotions de Plutchik. Alors, Plutchik, il a une théorie qui s'appelle la théorie psycho-évolutive. Pour lui, il y a 8 émotions de base qui se font par paire. Vous voyez, par exemple, horizontalement, vous avez d'un côté la peur, de l'autre côté la colère. Selon Plutchik, on ne peut pas vivre les deux exactement au même moment. On le sait bien dans le niveau de la survie, peur et colère. La peur est là pour me faire fuir et la colère pour me faire agir. Je ne peux pas en même temps me battre et fuir. Les émotions par paire opposées chez Plutchik sont des émotions qui ne peuvent se vivre à la seconde même simultanément. Alors, ces émotions, la raison pour laquelle Plutchik nous dit ces émotions-là sont des émotions de base, c'est parce que ce sont des émotions qui vont déclencher des comportements particuliers. Par exemple, si j'ai peur, mais je dois pouvoir déclencher le comportement de la protection, de fuir. Si je suis en colère, je dois pouvoir déclencher le comportement de la destruction de ce qui m'empêche d'atteindre ce que je recherche. Par exemple, si je suis une gazelle poursuivie par un lion, c'est clair que ma solution première, c'est même avant que le lion ne court derrière moi, avant que le vent n'ait amené mon odeur à celle du lion, chez le lion, c'est que je m'enfuis. Ça va ? Ça, c'est la première solution de survie. Et donc, j'ai besoin d'avoir peur pour sentir la menace. Ce n'est pas là que ça se passe, hein, c'est dans le corps. Et pour pouvoir fuir, me protéger. J'ai besoin de la colère pour pouvoir détruire ce qui est dans mon chemin, pour pouvoir me défendre éventuellement. Mais ça peut aussi être, si on pense à nos ancêtres qui vivaient sur un territoire donné, ils savaient très bien, ils prévoyaient très bien qu'il y avait telle baie à tel endroit, telle racine qu'ils allaient pouvoir ramasser, etc., etc. Admettons qu'ils arrivent le jour où les baies sont prêtes pour venir ramasser ces baies et qu'ils trouvent une autre tribu venir les cueillir. Mais qu'est-ce qu'ils ont besoin ? Ils ont besoin de cette énergie de la colère pour détruire cet ennemi, non pas intellectuellement, mais c'est une question de survie. Ces baies sont là pour ma survie. Si je ne les ai pas, je ne mange pas. Donc, ce n'est pas de la colère rationalisée, c'est vraiment de la colère de survie, etc., etc. Je vais prendre peut-être un autre exemple encore. Il y a l'émotion de... laquelle je vais prendre de... On va prendre par exemple la tristesse. La tristesse est une émotion, bon, on pense toujours que c'est une émotion plutôt secondaire, mais la tristesse, là, la tristesse donne à l'animal, à l'humain au niveau primaire, donne cette idée de perte de quelque chose. Et l'opposé, c'est la joie, si je le retrouve. Mais la tristesse, je ne sais pas si vous avez lu le bouquin en français, c'est... Les enfants de la terre de Jean Howell, avec Ayla. Ayla, c'est une petite Cro-Magnon qui est récupérée par des Néandertaliens. Et donc, elle est front droit, eux, ils sont front plat. Et elle est seule, elle est complètement seule avant d'être récupérée. Et en fait, seule, j'ai tout perdu. Ma tribu, ma famille, tout. Mais seule, je ne peux pas m'en sortir. Et donc, la tristesse, elle est là pour créer chez les autres le besoin d'être réincorporé dans un groupe, etc., etc. Donc les émotions dont je parle ici, les 8 émotions de Plutchik, ce sont 8 émotions de base. Tous les auteurs ne sont pas d'accord pour dire qu'il y en a 8, mais bon, j'ai pris Plutchik parce que je le connais bien. Mais ces émotions-là, en fait, sont des émotions de base, primaires, qui vont nous permettre de réagir par un comportement, et ce comportement, il doit être là, et la réaction doit être là, mais non pas avec ma tête, mais avec mes réactions corporelles. C'est primaire. Trop souvent, quand on parle émotions, on parle des émotions secondaires, celles qu'on peut psychoanalyser dans notre tête. Ici, ce sont ces émotions qui nous conduisent à un comportement de survie. Ok, alors juste pour votre intérêt, vous avez là le tableau, je vous l'ai juste mis, de Plutchik, sa théorie, c'est en anglais parce que je ne l'ai pas trouvé en français, sa théorie psycho-évolutive avec ses 10 postulats. Donc c'est les personnes qui sont intéressées, vous pouvez le trouver en tout cas sur Internet, mais juste aussi pour vous dire qu'il y a les 8 émotions de base chez Plutchik, et puis il y a des tas de combinaisons d'émotions qu'il appelle des dyades. C'est vraiment... Je sais que Plutchik a écrit énormément de choses super intéressantes. C'est en anglais beaucoup, beaucoup, mais vous pouvez aussi trouver déjà des choses intéressantes en français. tout n'est pas traduit. Donc ça, je vous ai dit. Un autre, l'autre personne dont je vais vous parler, c'est Panskep. Panskep qui dit la même chose que Plutchik autrement. Il y a une bonne évidence biologique du fait qu'il existe au moins, lui, il parle de 7 systèmes émotionnels innés. Et ce qui est vachement intéressant chez Panskep, c'est, il est docteur en psychobiologie, c'est que Panskep a démontré, de nouveau, son livre n'existe qu'en anglais, qu'il existait, mais dans le cerveau limbique qu'on a vu tout à l'heure, 7 voies particulières, 7, j'ai envie de dire, circuits neuronal particulier qui entraîne des réactions en fonction des besoins. Alors, ces 7 systèmes émotionnels de base chez lui, c'est par exemple le système de recherche. J'ai besoin de ce système qui est un circuit neuronal pour aller rechercher non seulement mon alimentation, pour chercher, pour sentir ce qui est dangereux, pas dangereux, j'ai besoin de ce système de recherche. Et tant que je n'ai pas trouvé ce qu'il me faut, mettons, à manger, que ce soit chez l'animal ou chez l'humain, ce système de recherche va continuer à fonctionner. Dès que j'ai trouvé ce qu'il me faut, il arrête. Donc c'est totalement non conscient. C'est ce qui vous entraîne parfois à vous retrouver en train d'acheter une, comment vous appelez ça, un chausson aux pommes, avant même que vous n'ayez réalisé. Par exemple, c'est vraiment le système de recherche qui se met en marche. On appelle ça gosette aux pommes en Belgique. Voilà. Le système de la rage, mais ce système, de nouveau, il est inscrit dans notre neurologie pour pouvoir attaquer, me défendre. Donc, il déclenche cette colère. Le système de la peur, me permettant de fuir, d'échapper. Donc, vous voyez que c'est très proche de ce que fait Plutchik, mais c'est un peu différent. On a j'aime bien le quatrième qu'il appelait au départ le système de la panique, mais qu'il appelle aujourd'hui le système du chagrin. C'est ce qui permet au petit oiseau tombé du nid de faire pip, 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 qu'on appelle la détresse de vocalisation. Et il va le faire un certain temps. Et puis après, il va arrêter de le faire parce que s'il continue, que le parent n'est pas venu, c'est faire revenir le parent. Automatiquement, ce qui se passe, c'est qu'il va se faire bouffer par un prédateur. C'est la même chose avec nos enfants. On a perdu notre enfant dans une grande surface. Au début, on verra l'enfant pleurer. À la limite, il se met par terre et il commence à pleurer. Et à partir du moment où personne ne le trouve, il arrêtera. Parce qu'à ce moment-là, ça devient dangereux de continuer. Donc, tous ces systèmes sont super bien pensés dans notre neurologie, totalement consciente. Laissez-moi juste contrôler le temps, parce que quand je m'emballe, je m'emballe. Il me reste 20 minutes, c'est juste à peu près 20-25 minutes. Hein. Donc voilà, il y a aussi évidemment la sexualité. Si je veux continuer, que la race humaine continue, ben j'ai besoin du système de la sexualité, du système du jeu pour apprendre le contact physique et du soin pour prendre en charge les petits. Alors, en général, eh bien, si tous ces systèmes émotionnels peuvent se mettre en marche et me faire retrouver mon équilibre, c'est géant. Le souci, c'est que ce n'est pas toujours comme ça. Le souci, c'est que parfois, nous restons bloqués dans une émotion. Qu'est-ce qu'il disait hier ? Je crois que c'était toi, Bianca, qui disait hier soir au dîner que quand on vit une peur ou une colère, ça doit durer 90 secondes et après, ça doit être parti. C'est ça que tu disais, hein ? Déchargé. Malheureusement, est-ce que vous connaissez beaucoup d'humains qui vivent ça ? Oui, parfois. Parfois, on le vit. Mais le souci, c'est que très souvent, on ne le vit pas. Et une des raisons pour lesquelles on ne le vit pas, c'est parce qu'on a un cerveau pensant. Et de nouveau, je passe à Luc Nicon, qui lui dit... Nous sommes tous dotés d'une fonction autonome de régulation émotionnelle. Qu'il s'agisse d'un grave accident automobile ou d'une rupture amoureuse, le traumatisme va se résorber petit à petit. Toi, tu disais en 90 secondes, mais en tout cas, on sait très bien qu'on a eu un gros accident ou une rupture amoureuse, au bout de de 15 jours, un mois, deux mois, trois mois, ça va. On est prêt à reprendre la voiture, on est prêt à nouveau avoir une bonne relation amoureuse. Le souci, c'est que pour certaines personnes, dans certaines situations, cette régulation ne se fait pas. Le mécanisme est bloqué et dans la plupart des cas, ça s'aggrave même avec le temps. Ces blocages concernent toutes nos difficultés émotionnelles récurrentes. Alors, comment savons-nous que nous avons une émotion ? Ben, on sait qu'on a une émotion parce qu'on a des papillons dans le ventre, parce qu'on a un nœud dans la gorge, etc. On sait aussi qu'on a une émotion parce que on se comporte de manière un peu bizarre. Mais là, c'est plutôt les autres qui vont le voir que nous. Hein ? Parce que nous, quand on se comporte de manière bizarre, on se dit « mais non, tout va bien ». Mais ce sont les autres qui le voient. Et puis, on sait qu'on a une émotion parce qu'on a des réflexions dans sa tête. Mais de nouveau, c'est plutôt psycho-émotionnel qu'émotionnel. En fait, c'est dans ces trois manières de le savoir, la seule vraie manière, c'est si j'ai pas de sensation, j'ai pas d'émotion. Bon, je peux ne pas être conscient de mes sensations. Mais dès que j'ai des sensations, elles peuvent être agréables, j'ai une émotion. Comment est-ce que je sais que je suis triste? Comment je peux, avec ma tête, venir coller cette étiquette tristesse? Parce que je sens que j'ai des larmes aux yeux, que j'ai un nœud dans la gorge. Comment je sais que je suis en colère? Parce que je sens des tensions dans mes avant-bras, etc. Et j'ai vraiment eu la chance, je ne vais pas dire de cocu, on ne s'en dit pas. Les sensations sont donc comme la carte d'identité de l'émotion. J'étais en train de travailler sur ce document et fin décembre, le 31 décembre, une équipe finlandaise a publié un document extraordinaire. C'est l'équipe du professeur Lauri Nieminen. Ils ont publié, je vous l'ai mis en français dans votre texte, ça c'est leur document, c'est un document de 7-8 pages. En fait, comment ont-ils fonctionné? Ils ont pris 701 personnes, ils les ont fait visualiser des schémas, des films, des photos exprimant spécifiquement une émotion. Ils ont donné deux petits bonshommes, comme vous les voyez là, et ils leur ont demandé de colorer en rouge et en jaune, soit encore plus fort, quand les zones du corps exprimaient un ressenti, accentué, et en bleu, quand les zones du corps exprimaient un ressenti diminué par rapport à la normale. Donc ils en sont arrivés à faire une carte de l'expression physique de chacune des émotions. Et chez les 701 personnes, c'était suffisamment répétitif que pour dire c'est la carte des émotions. Ça ne veut pas dire que les 701 personnes ont décrit chacune des émotions de cette manière-là, mais une très grande majorité a montré ces schémas-là. Donc ça veut dire que notre biologie, notre physiologie s'exprime chez nous tous de la même manière en fonction des émotions. Impressionnant. Vous imaginez, je travaille là-dessus et puis je tombe là-dessus. Merci la vie, exactement. C'est assez extraordinaire. Et donc, Monsieur Numenma nous dit à chaque émotion correspond une combinaison précise de sensations. Et ces sensations pourraient être à la base de nos expressions émotionnelles conscientes. Donc c'est l'origine. Et Luc Nicon, encore lui, nous dit une émotion se manifeste par un ensemble de sensations physiques ressenties dans notre corps. Et ces manifestations sont concrètes et descriptibles, on le sait. Je regarde si j'ai des choses. Je vais un peu plus vite parce qu'il me reste encore... Ok, alors qu'est-ce qui se passe quand on a une émotion? Soit, comme je disais tout à l'heure, on fuit, soit on lutte, soit c'est le figement. Et une des personnes spécialisées dans cette recherche-là, c'est Peter Levine. Et Peter Levine a été interviewée par un journaliste qui s'appelle Azu Minihi. Et on va d'abord parler des animaux, parce que les animaux nous montrent bien comment ça se passe. Quand un animal a été poursuivi, par exemple, eh bien, il arrive en lieu sûr, il s'ébroue, libère l'énergie qu'il avait emprisonnée, et puis retourne paisiblement à ses activités. La gazelle de tout à l'heure, elle est poursuivie par le lion, et puis au moment où elle ne peut plus fuir, elle va être obligée de faire face, elle se retourne et elle se fige. C'est son seul moyen de survie à ce moment-là. Elle se fige et qu'est-ce qui se passe? Le lion, à moins qu'il ne soit extrêmement affamé, va se détourner parce que les prédateurs ne mangent pas les animaux morts. Or, quand elle est figée, c'est comme si elle était morte. On sait très bien, un grand chien, un petit chien, à un moment donné, le petit chien, il ne peut plus, mais il se met ventre en l'air. Il offre son ventre. C'est dans la même race, c'est plus facile. Lion, gazelle, ce n'est pas vraiment la même race. Donc, elle retourne paisiblement à ses activités. Elle a pu aller jusqu'au bout du mouvement. Alors, les humains, comme on l'a vu tout à l'heure avec Luc Nicon, on a ce mécanisme régulateur, Lévin le dit aussi, ce mécanisme régulateur qui est comme la cicatrisation pour la peau. Hein. Émotionnellement, on a ce mécanisme tous, mais malheureusement, on ne l'utilise pas. Mais très souvent, c'est oublié parce que notre cortex contrôle tout. Et il dit aussi, les êtres humains subissent les effets néfastes de l'énergie qui a été emprisonnée, faute de ce processus mené à son terme, qui aurait pu la libérer. Parce que bien souvent, on a perdu, nous les humains, les ressources instinctives face au danger. De nouveau Luc qui nous dit « La plupart de nos peurs sont inconscientes. Comment les repérer ?» Dans la plupart des cas, c'est intellectuellement qu'on cherche à le faire, alors que seules nos sensations peuvent nous conduire directement avec précision à l'origine de toutes nos peurs et toutes nos émotions. Les peurs étant la toute première partie, de la toute première émotion fondamentale. Laissez-moi juste une seconde pour voir où j'en suis. Je vous ai mis dans le texte, je vous ai mis presque 2 pages sur le travail de Peter Lévin. Je vous laisse découvrir parce qu'il y a des choses vraiment intéressantes dedans, mais je ne vais pas avoir le temps de toute façon de les voir. Ça, je le savais, je ne vous les ai pas mis non plus ici. Mais maintenant, on va arriver à l'EFT. On revient d'abord à Peter Lévin qui nous dit 2 phrases. Le traumatisme est comme une réponse dans le système nerveux et ne trouve pas son origine dans un événement. Le traumatisme est dans le système nerveux et non pas dans l'événement. Qu'est-ce que dit Gary ? La cause de toute émotion négative est une perturbation du système énergétique du corps. Et puis, Peter Lévin nous dit aussi, les symptômes traumatiques ne sont pas causés par l'événement. Ils surgissent quand l'énergie résiduelle de l'expérience n'est pas déchargée du corps. Il y a comme un arrêt, on ne peut pas aller au bout de l'expérience, pas dans sa tête, de l'expérience dans son corps. On ne peut pas aller au bout de ce qui doit se vivre parce qu'on l'arrête souvent avec la tête. Cette énergie demeure prise au piège dans le système nerveux où elle peut faire des ravages dans nos corps et esprits. Et que dit Gary ? Certaines personnes sont dérangées par leurs souvenirs alors que d'autres ne le sont pas. La différence est que le système énergétique de certaines personnes a tendance à se laisser déséquilibrer par de tels souvenirs. Et donc, l'un parle énergie, l'autre parle voie neurologique, mais quand on tapote, c'est la même chose. L'énergie, les voies neurologiques empruntent toutes les deux une chose, ce que je ne vais pas développer du tout maintenant, c'est l'électricité du corps. Le corps, il est électrique. Les voies de transmission dans le corps sont électriques, que ce soit les voies neuronales, que ce soit les voies énergétiques, c'est électrique. Et en tapotant sur nos poings, on a une action sur ces 2 choses-là. C'est le zut de Gary. Alors, j'en suis où là? Maintenant, si on veut appliquer les choses, je ne vais pas vous faire le résumé, vous le lirez bien dans les notes. Ça, je vous ai dit. Si on veut résumer tout ce que je vous ai dit, ben, quand je pars d'une situation cerveau conscient, ou quand je pars d'une émotion que j'intellectualise, que je raisonne, cerveau conscient, psycho-émotionnel, c'est comme si je descendais, je termine là, c'est comme si, j'ai pas vu ce que, combien tu me disais, 10, oh, ça va, j'ai vraiment le temps, c'est comme si je prenais le temps de descendre marche après marche jusqu'à l'événement d'origine de ma difficulté. On sait très bien en EFT que le seul et unique outil, quelqu'un disait hier, je crois encore que c'est toi, bien, car décidément, hier, qu'est-ce que tu as dit hier? Qu'on a tous les outils de l'EFT dans le niveau 1. Et quel est l'outil principal qu'on appelle, prend en niveau 1? C'est la technique du film et ou du raconter l'histoire. Qui est cette technique où je vais rechercher un événement spécifique pour le travailler. Le souci, c'est comment j'arrive à cet événement spécifique. Si je pars avec ma tête vers cet événement spécifique, c'est comme si j'y allais par un escalier. Même si parfois, je suis d'accord que je peux descendre plus vite. Par contre, si je pars non pas de ma tête, ah, j'ai vécu un autre événement spécifique avec, voilà, je travaille sur la peur de parler en public. Ah oui, je me souviens d'un événement spécifique. À 10 ans, j'ai dû faire une présentation devant la classe et je suis partie par ma tête. Je descends par les escaliers. Ou alors, ah oui, oui, je me souviens, là, j'ai de la colère et je me souviens, oui, j'ai eu de la colère il y a 15 ans quand je suis de nouveau partie de ma tête. Si je pars de mes sensations, d'un ressenti, je descends beaucoup plus vite. Je prends l'ascenseur et je vais directement à l'origine de mes émotions. Pourquoi ? Parce que je ne pars pas par ma tête, je pars par mes tripes, je pars par mon cerveau non conscient, mon cerveau émotionnel, mon cerveau tronc cérébral qui est dans les réactions réflexes, et je vais beaucoup plus vite. Donc, si vous entendez le message que j'ai envie de vous faire passer là aujourd'hui, c'est partez par les sensations. Quand on entend Gary, vous trouverez plus dans mes notes, mais quand on entend Gary, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, quand as-tu eu la même sensation? Il ne va pas vous dire, tu te souviens d'une autre situation? Ou tu te souviens quand tu as vécu cette émotion-là? Il va dire, mais quand as-tu vécu la même sensation? Et quand il vous parle émotion, il va vous dire, mais cette émotion, elle fait quoi dans ton corps? Et est-ce que tu te souviens d'un autre instant où tu as vécu le même ressenti? Donc, il ne parle pas avec la tête. Gary nous emmène dans le passé avec nos tripes, notre corps. Suivez cela, vous irez beaucoup plus vite. Vous prendrez l'ascenseur avec les personnes que vous accompagnerez. Alors, je vous ai mis d'autres idées. Il y a juste une chose sur laquelle je voudrais insister, c'est sur les trois dernières, le reste, vous verrez bien. C'est que le ressenti, quand vous impliquez le ressenti dans un film, dans une séance, ça vous permet d'aller très loin, mais il y a un des cinq sens qui ne passe même pas par le thalamus, qui rentre directement dans notre cerveau émotionnel. Vous savez lequel c'est? L'odorat, exactement. C'est l'odorat. Donc, quand dans une séance, vous pouvez impliquer l'odorat, vous êtes beaucoup plus dans la mémoire émotionnelle directement et ça vous permet éventuellement de partir beaucoup plus loin. C'est totalement non conscient. Là, c'est immédiat. Et puis, l'autre chose, c'est que quand une personne vit la rage, ça c'est Patricia Carrington qui le dit, quand une personne vit la rage, un jour Patricia Carrington, elle fait tapoter quelqu'un en disant « même si j'ai cette rage, je m'accepte totalement et profondément ». Et il tapote là-dessus. Tout va bien. Et puis à un moment donné, le gars l'a regardé et a dit, la phrase était, même si j'ai de la rage et que j'ai envie de le tuer, je m'accepte totalement et profondément. Ok ? Et Patricia tapote avec lui. Et puis, qu'est-ce qui se passe ? Le gars, à un moment donné, la regarde. Ça va, je peux aller le tuer. Je m'accepte avec l'idée d'aller le tuer. Ok ? Heureusement, elle avait les connaissances, psychologue clinicienne, elle avait les connaissances qu'il fallait pour, mais n'empêche. Donc, quand vous avez de la rage ou une envie de destruction comme ça, passez par le ressenti, mais ne mettez pas de mots. Ça va ? Dernière chose aussi, Patricia Carrington, quand on vit un événement extrêmement traumatisant, ne passez pas tout de suite par le ressenti. C'est trop fort à ce moment-là. Et moi, personnellement, je travaille, par exemple, si c'est un événement extrêmement traumatisant, même si j'ai vécu cette chose terrible, puis je nomme, même si, comme elle l'avait fait, même si le 11 septembre était désastreux, et puis même si j'ai vu, même si j'ai entendu, et puis seulement même si j'ai senti dans mon corps, et puis après seulement on arrive au niveau de nommer l'émotion. Donc, si vraiment l'événement est extrêmement traumatisant, évitez au départ de passer par le corps et utilisez la technique se faufiler dans le problème de Gary en allant du général au spécifique. J'ai quasi terminé, je vous laisse découvrir le résumé. Et voilà, encore Luc Nicon qui nous dit « Nos ressentis physiques semblent donc être les seuls à pouvoir nous conduire de façon fiable jusqu'à l'origine de nos souffrances émotionnelles. » Je vous remercie, c'était passionnant pour moi de préparer ça et passionnant de le donner. Merci. Une question ? J'ai encore 6 minutes, je crois, donc oui. Les trois cerveaux. Je vais retraduire, oui. Alors, je n'ai pas parlé du cervelet, j'ai parlé des trois cerveaux, le cerveau triunique, mais pas du cervelet. Le cervelet est principalement, mais pas seulement, un modulateur physique. Donc oui, ça correspond à cette maladie du tremblement essentiel. Dans le cervelet est aussi constitué lui-même de trois cerveaux. Donc on a le tronc cérébral avec un micro petit cervelet chez les reptiles, et puis on a un cervelet plus grand chez les premiers mammifères, et puis on a le cervelet développé comme il l'est aussi aujourd'hui avec le néocortex chez les grands mammifères et l'humain. Donc le cervelet est impliqué dans les trois cerveaux. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais... Du tremblement essentiel ? Oui, oui, je vais répéter quand la question sera posée.
Dans la schizophrénie,
oui.
Dans la schizophrénie, on dit que... parce que ça arrive à peu près vers les 24-25 ans. Hein, on dit qu'il y a toujours un facteur déclenchant dans l'adolescence.
Oui.
Et je connais une personne dans ce cas-là, quoi, c'est pour ça que j'en parle. Et il a eu justement ce tremblement essentiel à l'âge de 11 ans. Et je voulais savoir s'il pouvait y avoir un...
Je ne peux pas dire s'il y a de lien entre les deux. Je sais que très souvent, et ce n'est pas du tout le lieu de cela, mais très souvent, il y a eu consommation de hache, etc., dans l'adolescence, et que ça peut déclencher une schizophrénie. J'en connais plusieurs. Mais voilà, je ne peux pas répondre à cette question. Je suis désolée. Ouais. Ouais. D'autres questions ? J'ai encore 1 ou 2 minutes. Cathy ? Il y en a encore, des questions ?
Oui. Oui, moi j'ai une question, Dominique. À propos de la mémoire, tu as montré sur tes diagrammes que la mémoire était à tel endroit dans le cerveau. Mais on sait qu'en fait, la mémoire elle-même... il semblerait ne soit pas... On n'a pas trouvé de zone où c'était stocké.
Tout à fait.
Mais que ce serait une sorte de stockage un peu hologrammique dans ce qu'on appelle la matrix, dans une zone...
Certains disent dans la matrice extérieure, d'autres disent dans le cerveau, au niveau des synapses. et du nombre de dendrites voilà, que l'on fabrique.
Voilà, on n'a pas de traces. Et l'EFT, justement, est-ce que... Moi, c'est mon hypothèse et je travaille comme ça. C'est que, justement, le corps permet de se remettre en résonance avec les informations et les émotions particulièrement sont le véhicule des informations qui sont stockées peut-être à l'extérieur. Et ce qui pourrait expliquer que l'EFT, en mettant en résonance le système énergétique du corps avec un système énergétique plus vaste, nous permette d'opérer une régulation. Je voulais savoir ce que tu en penses.
Je pense qu'il doit y avoir quelque chose de cela. Je pense aussi que dans notre corps, le cerveau limbique emmagasine les choses aussi. Alors, est-ce qu'il est juste le reflet de quelque chose qui est dans la matrice ou est-ce que c'est là que ça se s'ancre ? Je n'en sais rien. Mais c'est clair que quand je travaille en EFT, je travaille sur ce niveau non conscient de cette mémoire implicite. Implicite. Donc, voilà. On pourrait en discuter pendant des heures de ça. C'est entre autres le lieu du cours Matrix Reimprinting, hein, où on travaille de cette manière-là. C'est bon ? C'est tout ? Time ? Merci à vous.